Nous allons lire trois
parties. Premier texte qui est tiré de Ésaïe, au chapitre 11, versets 1 à 5. Un rameau sortira de la souche de Yessé. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Et il lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas d'après ce que voient ses yeux, il ne se prononcera pas d'après ce qu'entendent ses oreilles. Il jugera les faibles avec justice. Il se prononcera dans l'équité envers les pauvres du pays. De sa parole, comme d'un bâton, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses hanches et la fidélité le baudrier de ses reins.
Et nous continuons les lectures avec un extrait de l'évangile de Marc. Marc 8, versets 27 à 29. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages voisins de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogeait ses disciples. « Qui suis-je ?» au dire des hommes. Ils lui dirent « Jean le baptiseur, pour d'autres Élie, pour d'autres l'un des prophètes. » Et lui leur demandait « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Prenant la parole, Pierre lui répond « Tu es le Christ. » Et le dernier texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, les versets 35 à 40. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade, et vous m'avez visité. En prison, et vous êtes venu à moi. Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire ? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir, nu et de te vêtir ? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir à toi ? Le roi leur répondra, « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » L'évangile de Marc est le plus ancien des quatre évangiles. Il a été écrit vers la fin des années 60 et c'est aussi le plus court. Au centre de cet évangile, Jésus pose donc une question à ses disciples. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Cette question traverse les siècles depuis le début du christianisme jusqu'à nous rejoindre aujourd'hui. Qui est-il ? Qui est-il pour nous ? Qui est-il pour moi ? Entre ce qu'on lit dans les évangiles, entre nos doutes, nos questionnements et notre foi, entre le travail des exégètes, des historiens, des théologiens, des philosophes, qui est-il pour moi ? Cette question est peut-être à l'origine des nombreux conciles qui ont débattu au cours des premiers siècles sur la nature divine ou humaine de Jésus. Qui est Jésus ? Nous allons examiner quelques réponses à partir de ce que disent les évangiles. Première réponse, Jésus est l'humain accompli. Jésus s'identifie à l'humain. Il s'identifie aux victimes dans le texte de Matthieu que nous venons de lire. Tout l'Évangile raconte l'importance pour lui, dans sa vie, de rejoindre l'homme le plus démuni, non seulement de le rejoindre, mais aussi de le relever, de le réintégrer dans la communauté des humains. Il guérit les malades, les aveugles, les infirmes, il ne rejette pas la prostituée, il va manger chez le collecteur d'impôts. Il n'y a pas de véritable religion sans véritable humanité. Le pasteur Wilfred Monod, au début du XXe siècle, déclarait dans une prédication « Mieux vaudrait avoir servi Jésus-Christ sans le nommer que d'avoir nommé Jésus-Christ sans le servir. » Un pharisien, spécialiste de la loi, qui lui demandait « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. C'est là le grand commandement, le premier. Un second, cependant, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Seconde réponse qu'on trouve dans les évangiles. L'évangile de Marc débute par « Bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Donc Jésus est le Christ. Les manuscrits des évangiles sont écrits en grec, sans ponctuation et tout en majuscules, ce qui peut entraîner des traductions différentes. Lorsque nous disons « Jésus-Christ », nous associons et réunissons deux termes de nature différente. D'abord, Jésus, qui est un nom propre, qui désigne une personne qui s'appelle Jésus, comme d'autres s'appellent Jacques, Jean ou Paul. Ensuite, Christ, Christ qui est un nom commun, qui signifie « oint », « envoyé de Dieu ». Ce mot est équivalent à « Messie ». Il indique donc une fonction, comme le font les termes tels que « prêtre », avocat ou professeur. Aussi, plutôt que Jésus-Christ, il serait sans doute préférable de dire Jésus le Christ, comme on dit Jérémie le prophète ou Jean le Baptiste. Le mot de Christ désigne celui à travers lequel Dieu se manifeste et agit. Mais Marc désigne aussi Jésus comme fils de Dieu. C'est la troisième réponse. Tous les humains et toutes les créatures ne sont-ils pas des enfants de Dieu ? Paul écrit « Nous sommes tous fils de Dieu par la foi. Il ne s'agit nullement d'un statut exceptionnel qui ferait sortir de l'humanité. » Pour Jésus, il est précisé « fils unique ». Ou encore, au baptême de Jésus, on entend une voix qui survient des cieux, « Tu es mon fils bien-aimé », ce qui indique une proximité très forte avec le Père. Seulement proximité ne veut pas dire identité. Dans le Nouveau Testament, certaines affirmations supposent une union entre Dieu et Jésus, et d'autres suppose une différence et une distance. Par exemple, dans l'évangile de Jean, d'un côté, Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un. Qui m'a vu, a vu le Père. » Ou encore « Le Père est en moi. » Mais de l'autre côté, toujours dans l'évangile de Jean, il déclare « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Le Père est plus grand que moi. » « Mais la question importante, est-ce que c'est pas « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Les enquêtes d'opinion ont envahi notre monde aujourd'hui. Nous sommes submergés par des questions d'enquêteurs qui cherchent à savoir de quelle façon nous consommons, quelle machine à laver nous avons, tel produit de lessive, mais aussi quelles sont nos opinions politiques et nos idées religieuses. En demandant au dire des gens « qui suis-je ?», Jésus semble faire une enquête d'opinion. Seulement, il ne s'attarde pas sur les réponses données. Il enchaîne aussitôt sur la question centrale, celle que Jésus adresse à ses disciples et à travers eux à nous, à vous, à moi, à tous les humains, 20 siècles plus tard. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Cette question pose le problème essentiel du témoignage, de la foi, de l'engagement au sens le plus fort du terme. Si Jésus pose cette question, ce n'est vraisemblablement pas pour obtenir une réponse, mais plutôt pour faire réfléchir ses disciples et nous avec eux. Il est important que dans une époque où l'on dit tout et son contraire sur Jésus, nous sachons nous situer par rapport à ce que nous croyons. Nous devons répondre clairement à la question qui va nous permettre de dire notre foi ou simplement de vivre plus humainement. Qui dites-vous que je suis ? Une réponse, c'est un cheminement. Rien n'est jamais définitif. Il faut accepter les remises en question. La foi elle-même est un cheminement. C'est si facile et rassurant de donner une réponse automatique issue d'un catéchisme ou d'un credo récité au culte ou de l'opinion générale de notre société. Pourtant, la question est bien de l'ordre existentiel. Pour moi, qui est Jésus ? Que dit-il ? Comment agit-il ? Qu'est-ce qui mène ma vie ? Qu'est-ce qui me fait exister ? Mettre mes pas dans ceux de Jésus, le Christ, celui à travers qui Dieu se manifeste et agit, ou bien faire comme si la question ne se posait pas.
Le texte d'Ésaïe que nous avons lu et qu'on lit traditionnellement pour Noël parle d'un juste qui s'occupe des pauvres et des affligés de la terre. Dans le texte de Matthieu, le Fils de l'homme, un des titres de Jésus, s'identifie aux pauvres, aux étrangers, aux prisonniers, à tous ceux qui ont besoin d'être secourus et réintégrés dans leur humanité. Voilà ce que Jésus nous demande de faire, et ce sont bien des problèmes de notre société aujourd'hui. Dire qui est Jésus pour nous, ce n'est pas seulement donner une réponse biblique, mais c'est aussi choisir une manière de vivre. C'est nous engager à sa suite pour soulager les opprimés et les exclus. L'ONG Oxfam a dénoncé un accroissement historique des inégalités en 2017. Au total, cette année-là, 82% des richesses créées dans le monde ont bénéficié à 1% des plus riches. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres sont de plus en plus pauvres. Que faisons-nous, non seulement pour aider ceux qui souffrent, mais aussi pour que cela change ? Mettre nos pas dans ceux de Jésus, c'est aussi affronter un autre problème brûlant et qui risque de ne pas disparaître rapidement, celui des immigrés qui arrivent dans notre pays pour fuir la guerre, les persécutions, la famine et de plus en plus les catastrophes climatiques. Pour ceux qui ne sont pas morts en cours de voyage, on connaît tous les conditions dans lesquelles ils sont accueillis, ou plutôt ne sont pas accueillis, mais emprisonnés, rejetés, renvoyés ailleurs. Notre modèle de développement à outrance conduit à la dégradation de notre environnement, mais aussi à une injustice entre les humains, au refus de l'accueil des plus démunis. La crise écologique et la crise sociale vont de pair. Les problèmes écologiques, qui sont un des problèmes majeurs auxquels nous sommes confrontés, se répercutent inévitablement sur la vie des personnes, à commencer par les plus pauvres. La lutte pour la dignité de l'humain était celle de Jésus, elle devrait aussi être la nôtre. Nous avons tendance à nous sentir impuissants, à être résignés. Et pourtant, dans l'évangile de Jean, on trouve cette phrase « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes encore. » Y croyons-nous vraiment ? Jésus accueille, relève, nourrit 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Bien sûr, ce sont des textes symboliques. Il ne faut pas en faire une lecture littérale, mais ils sont riches de sens. Le partage peut faire des miracles. Sommes-nous alors capables de partager ? Le comportement de ceux qui consomment et détruisent toujours davantage est-il admissible, tandis que d'autres ne peuvent même pas vivre conformément à la dignité humaine ? N'est-il pas temps d'accepter une certaine décroissance, au moins dans les parties les plus riches du monde, pour permettre une croissance vitale dans les pays les plus pauvres ? Partager. Partager, ce n'est pas seulement avec nos voisins d'aujourd'hui, c'est aussi partager avec les générations futures. Quelle planète allons-nous leur laisser ? De quelles ressources disposeront-ils si nous avons tout surexploité ? N'ayons pas peur de suivre les pas du Christ. Peur de ne pas en être capable. Peur de lutter pour remplacer la loi du plus fort par la loi de l'amour. Va avec la force que tu as, dit Dieu à Gédéon, lui le plus petit. Soyons portés par l'espérance. Notre foi est ancrée dans le matin de Pâques, victoire de la vie sur la mort, promesse de la possibilité de l'impossible. Nous pouvons être les témoins de cette espérance, poser des actes de résistance en bons protestants et explorer des alternatives. Nous pouvons choisir de nous réaliser dans le service du prochain, la quête de la justice, la sobriété, volontaire, dans la confiance. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice. C'est en agissant aujourd'hui comme Jésus l'a fait il y a 2000 ans que nous dirons au monde qui est Jésus pour nous. Soyons le sel de la terre, soyons la lumière du monde. C'est un beau programme. Amen.